Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité, une enseignante d'art plastique de 60 ans a été poignardée dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var. Son pronostic vital est engagé selon le procureur de Toulon. Au Maroc, plus de 50 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dernier dans le nord du pays, la plupart à titre préventif dans un contexte de fortes précipitations. Et en Tunisie, le dirigeant historique des Ennahda, Rached Ranouchi, écope de 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Et c'est notre dossier du jour à suivre. Nous l'avons évoqué dans les titres, une enseignante d'art plastique de 60 ans a été poignardée dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer. Les faits se sont déroulés vers 14h en plein cours. L'enseignante a reçu 3 ou 4 coups de couteau portés par un élève de 3e qui a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il se rendait sur place. Il n'y a pas de connotation religieuse ou politique à ce stade, selon le procureur. Dans l'actualité, au Maghreb, au Maroc, plus de 50 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dernier dans le nord du pays et la plupart à titre préventif dans un contexte de fortes précipitations touchant plusieurs provinces du pays placées en alerte météorologique. Et la Fédération royale marocaine de football a annoncé qu'elle allait faire elle des sanctions prononcées par la Confédération africaine à la suite des incidents qui ont marqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En Tunisie, la Cour d'appel de Tunis a alourdi à 20 ans la peine de prison prononcée contre le chef du mouvement islamiste Ennahda, Rached Ranouchi, emprisonné depuis 2023 dans l'affaire dite du complot 2 contre le président tunisien. Et c'est l'un de notre dossier du jour à suivre. Dans un tout autre volet, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé qu'il irait en Algérie, mais attendait une amorce de réponse d'Alger aux demandes de Paris sur la libération du journaliste français Christophe Glaise, ainsi que sur les reconduites dans leur pays d'Algériens en situation irrégulière en France. Au Proche-Orient, 12 Palestiniens sont entrés hier dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, au premier jour de la réouverture très limitée du poste frontière de Rafah. Et dans le reste de l'actualité internationale, la Russie a lancé pendant la nuit sa plus puissante attaque de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de l'année, laissant des centaines de milliers de personnes sans chauffage par des températures glaciales, et ceci à la veille de négociations destinées à mettre fin à 4 ans de guerre. Et enfin, en France, le parquet général va demander des peines d'inéligibilité au procès en appel à Paris des assistants parlementaires du Front National où Marine Le Pen joue sa candidature pour l'élection présidentielle. C'était votre rendez-vous d'information. Merci beaucoup de nous avoir suivis et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier du jour en Tunisie, Rached Ranouchi, le chef du mouvement islamiste Ennahda, a été condamné à 20 ans de prison. Il a été reconnu coupable de complot contre la sécurité de l'État. Il dénonce un procès politique. Les précisions avec vous, Nadia Bencher.
Coup de tonnerre en Tunisie. La cour d'appel de Tunis a alourdi à 20 ans de prison la peine du chef du mouvement islamiste Ennahda, Rached Ranouchi, détenu depuis 2023 dans l'affaire dite du complot 2. Dans ce dossier, Rached Ranouchi et plusieurs dirigeants du parti sont accusés d'avoir mis en place un appareil sécuritaire secret visant le président tunisien et l'État. Selon son avocat, la cour l'a condamné pour complot contre la sécurité intérieure de l'État. À 84 ans, l'ancien chef du Parlement cumule désormais plus de 40 ans de prison. Après différentes condamnations rendues au fil de plusieurs affaires, les peines étant cumulables en Tunisie, son comité de défense indique qu'il renonce à se pourvoir en cassation, dénonçant un procès politique fabriqué de toutes pièces. Une vingtaine de personnes étaient jugées dans cette affaire, dont Nadia Akacha, l'ex-chef de cabinet du président Kais Saïd, et l'ancien premier ministre Youssef Chahed, actuellement en fuite à l'étranger. Fin novembre, un premier méga-procès avait déjà condamné en appel 34 opposants politiques, dont plusieurs figures de premier plan, à des peines allant de 5 à 45 ans de prison, jusqu'au coup de force de juillet 2021 qui a permis au président Saïd de concentrer tous les pouvoirs et nada dominer la vie politique tunisienne. Depuis 2021, les défenseurs des droits humains tunisiens et étrangers dénoncent une régression des libertés avec la détention et la condamnation de dizaines d'opposants, avocats, journalistes ou figures politiques.
Second dossier du jour, c'était une promesse d'Emmanuel Macron faite en 2017, la restitution des œuvres acquises pendant la colonisation à leur pays d'origine. Le Sénat a adopté une loi cadre qui va dans le sens de cette promesse. L'Assemblée nationale devra en débattre d'ici cet été. Un texte porté par la sénatrice Catherine Morin-Desailly, pour qui la réponse de la France se fait sans déni ni repentance, mais dans la reconnaissance de l'histoire de France. On l'écoute.
Nous ne sommes pas dans un débat mémoriel qui peut être très polémique en réalité, ni dans une forme de repentance qui peut être un sentiment, qui ne nous fait pas avancer plus qu'autre chose. La reconnaissance, c'est autre chose. C'est la reconnaissance et la réparation de faits passés, peu glorieux, qui ont consisté en effet à une époque lors des guerres coloniales, bien de s'approprier des objets de manière illicite. C'est ça que l'on souhaite pouvoir réparer dans une forme d'authenticité, c'est-à-dire qu'on veut être sûr, voilà, que ces biens ont été mal acquis, comme on dit, ou illicitement acquis, et on souhaite confier ce rôle d'identification, bien sûr, de ces objets, de vérification des critères, à des spécialistes complètement indépendants du politique, pour honorer en réalité les demandes légitimes des États étrangers et faire en sorte que on soit dans la sincérité et la vérité historique de la restitution.
Et donc, ça sera le travail du comité scientifique bilatéral, oui.
Voilà, alors il s'agit surtout dans ce geste de reconnaissance, non pas de mettre un terme à une histoire, mais au contraire de relancer les relations entre les États concernés. D'ailleurs, on associe pleinement les États demandeurs dans le cadre du comité scientifique à parité pour étudier justement les cas de restitution. Et l'idée, c'est aussi de développer toute forme de coopération à travers la restitution. C'est aussi bien des expositions en commun, c'est des éditions en commun, c'est tout un travail de recherche en commun pour raconter aussi l'histoire, valoriser le patrimoine, parce que somme toute, on est face à du patrimoine qui est le patrimoine qu'on pourrait considérer de l'humanité tout entière. Donc l'idée, c'est de relancer, approfondir, développer les partenariats actuels et en constituer d'autres.
Vous venez d'écouter la sénatrice Catherine Morin-Desailly au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.